Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bienvenue en direct de l'hôtel du Parlement jurassien à Delémont. La séance des questions orales qui va débuter d'ici quelques secondes. Je crois qu'on règle un petit incident technique du côté du Parlement. Et on va commencer avec une première question orale du député Jude Schindelholz, député PS de Delémont.
Alors, reprenons. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, la société EDJ Énergie du Jura est un instrument capital pour la mise en œuvre de la politique énergétique cantonale. Elle est notamment chargée d'informer et de conseiller les jurassiennes et jurassiens, les institutions et les entreprises, ainsi que de soutenir des projets dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Au vu de la crise actuelle en Ukraine et des fortes hausses des prix de l'énergie auxquelles nous faisons face, les sollicitations adressées à cette structure devraient certainement augmenter sensiblement dans les prochains temps. Or, cette société vient de connaître deux démissions à des postes clés. La présidente du conseil d'administration, qui était aussi la représentante de l'État jurassien au sein de cet organe, a annoncé son retrait pour le mois prochain. Le directeur, quant à lui, a donné sa démission pour fin juillet. Dans ces circonstances, notre question est la suivante. Les mesures nécessaires seront-elles prises pour pallier ces départs et assurer le bon fonctionnement d'EDJ ? Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, monsieur le député, les éléments que vous relatez sont exacts. Il y a eu deux démissions au sein de l'EDJ et l'État a déjà pris ses dispositions au niveau du gouvernement, puisqu'effectivement, la présidente était également représentante de l'État et une nouvelle administratrice a été donc désignée par le gouvernement pour remplacer cette personne, donc Madame Gigon, qui a annoncé sa démission de la présidence. En ce qui concerne la fonction de directeur, eh bien là, c'est une tâche du conseil d'administration que de s'organiser, d'organiser le remplacement, éventuellement également réfléchir à la structure de l'entreprise. Et nous, en tant qu'actionnaires, l'État, nous sommes bien évidemment à disposition du conseil d'administration, mais nous n'intervenons pas au niveau opérationnel dans la société. Et ce que vous relevez est également exact. La situation donc, au niveau du gaz est inquiétante au niveau européen, pas seulement au niveau de EDJ ou de Delémont ou de la région. Et EDJ, en tant que fournisseur de la région, avec une partie des infrastructures qui sont donc en possession de EDJ, est bien évidemment très attentif à la situation et essaye de trouver les meilleures solutions d'approvisionnement pour ses clients, et dans l'intérêt, bien évidemment, de la région et de l'économie qui est également liée à la consommation de gaz. Voilà donc ce que je peux vous donner comme information, monsieur le député. Donc une information rassurante au niveau de la tâche du gouvernement de désigner un ou une administratrice. Et au niveau opérationnel, bien évidemment, nous restons à disposition du conseil d'administration pour l'épauler ou pour l'aiguiller, pour le soutenir dans sa démarche de remplacement du directeur qui a démissionné.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Jude Schindelholz est satisfait. Pour la deuxième question orale, je passe la parole à monsieur le député Roberto Segala.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers et chers collègues, le verdict du peuple au sujet de Jura trop cher est tombé. Selon le site de l'initiative, la première raison évoquée est que les petites toitures bon marché sont trop taxées dans notre canton. C'est un constat qu'avait fait Éric Hainquin dans sa motion 1227, acceptée sous forme de postulat, et qui demandait d'adapter la taxation des véhicules par une diminution de la taxe pour des véhicules petits et légers et une hausse de la taxe pour les véhicules encombrants et lourds et énergivores. Le gouvernement va-t-il tenir compte de ce postulat et de l'étude qui était demandée dans la suite à donner à l'initiative Jura trop cher? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Rosalie Berecis.
Oui, merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Comme vous le relevez, monsieur le député, dans votre question, la motion de la députée Erika Henkin, transformée en postulat, demandait au gouvernement d'introduire une taxation annuelle différenciée des automobiles et autres véhicules motorisés qui favorisent d'une part les véhicules moins polluants et pénalisent les véhicules dont les émissions de CO2 sont les plus élevées. Je peux dès lors vous confirmer que ce postulat sera analysé dans le cadre du traitement de l'initiative Plaque moins chère. Je vous rappelle encore que pour répondre à ces différentes interventions, une modification des bases légales est nécessaire et que le Parlement sera sollicité pour les valider. L'enjeu sera alors de construire un projet qui permette de réunir différentes sensibilités politiques et d'aller de l'avant. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Roberto Segala est satisfait. Pour la troisième question orale, je passe la parole à Madame la députée Géraldine Beuchat.
Madame la Présidente, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, il faut des moyens financiers pour aller devant le juge dans le Jura. Pourtant, nous avons le même code de procédure que l'ensemble de la Suisse. Les différences entre les cantons sont immenses lorsque nous parlons de procédure judiciaire. Et il semble que le Jura détient la palme du canton le plus cher. Pour un jugement en première instance dans une procédure civile simple, il faut 4 000 francs à Lucerne, le double en Argovie et près de 12 000 dans le Jura. C'est ce que rapporte l'ANZZ et le BIC. Les chiffres ont été recueillis dans une étude menée par deux anciens professeurs de droit juricois. Il en ressort que les frais de justice dans le canton du Jura, pour une petite affaire, sont 10 fois plus élevés qu'à Appenzell-Rhodes extérieur. Il n'y a pas de raison logique à ces énormes différences. Les coûts élevés représentent un obstacle presque insurmontable pour de nombreuses personnes lorsqu'elles tentent de se défendre contre une injustice qu'elles estiment avoir subie. La gratuité de l'assistance judiciaire existe, elle n'est accordée qu'à ceux qui ont très peu d'argent. Dans la réalité, il arrive souvent que Madame seuls ceux qui ont l'argent nécessaire peuvent se défendre. Ma question, elle arrive, comment le gouvernement interprète-t-il les résultats de cette étude ? Je le remercie pour sa réponse.
Merci, Madame la députée, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à Madame la ministre Nathalie Bartolo.
Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, à la lecture de l'article de la NZZ que vous avez évoqué, Madame la députée, j'ai eu la même réaction que vous et je partage bien évidemment vos préoccupations. Toutefois, les renseignements pris auprès des autorités judiciaires, il s'avère que les chiffres indiqués dans l'article ne correspondent pas à la pratique des tribunaux jurassiens. Et comme vous le mentionnez, cette différence paraît a priori incompréhensible. Selon mes informations, le tribunal cantonal a été approché par deux professeurs chargés de réaliser une étude et ils ont soumis des questions auxquelles il n'était a priori pas évident de répondre sans faire de longues recherches, de fastidieuses recherches et de chronophages recherches. Donc il a été décidé de renoncer à répondre à cette étude. Toutefois, comme on peut l'imaginer, les deux chercheurs ont poursuivi leur analyse. Et puis, ils ont indiqué des chiffres qui ont mis en évidence des chiffres qui concernent bien sûr le canton du Jura, mais en se référant au décret sur les émoluments judiciaires et en retenant les montants qui se trouvent plutôt dans le haut des fourchettes proposées. Si je reprends juste un exemple qui était mentionné dans l'article pour une valeur litigieuse inférieure à 10 000 francs, le décret prévoit entre 600 et 5 000 francs de frais. Les auteurs de l'étude ont retenu 4 000 francs, alors que le tribunal applique en général un montant de 1 400 francs pour ce genre d'affaires. Donc, par rapport aux autres éléments aussi contenus dans l'article, à savoir les frais d'avocat à payer à la partie adverse, les frais pour son propre avocat, là aussi, nous nous interrogeons quant aux chiffres produits qui ne correspondent dans le fond à aucune statistique validée par les autorités judiciaires. Donc, vous l'aurez compris, Madame la députée, les chiffres contenus dans l'article de presse ne reflètent pas, ne sont pas un reflet fidèle de la pratique cantonale et l'accès à la justice reste bien évidemment possible pour toutes les jurassiennes et tous les jurassiens. Et dans ce sens, le tribunal cantonal est aussi en train de réfléchir à comment corriger ces informations erronées qui ont été diffusées.
Merci, Madame la ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Géraldine Beuchat est satisfaite. Pour la quatrième question, je passe la parole à Monsieur le député Gabriel Warhol.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, la notion de service public regroupe, d'une manière générale, toutes les activités ayant pour but d'être au service de la société. De cette définition, on peut espérer que le fait d'appeler un service ou un collaborateur de l'État pour une demande de renseignement durant les heures d'ouverture des dix services réponde à cette définition. Malheureusement, il arrive parfois que la seule réponse reçue se transforme en « notre service » ou « le collaborateur recherché n'est pas disponible pour le moment, veuillez rappeler plus tard, point final ». Après deux réponses similaires, sans même pouvoir laisser le moindre message, on peut comprendre que la notion de service public, ou plutôt de service au public, soit mise à mal, d'où ma question. N'existe-t-il pas des instructions au sein de l'administration pour éviter que l'administré qui cherche à obtenir un renseignement ne soit renvoyé qu'à l'obligation de rappeler plus tard, et lui-même, le dit collaborateur, ou même le service? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député. Alors, je vous rassure, oui, les collaborateurs de l'État et les ministres sont au service du peuple, comme le prévoit l'article 99 de la Constitution. Ceci dit, effectivement, la manière de contacter l'administration évolue. Nous avons actuellement plusieurs façons d'être contactés au niveau de l'administration. Il y a le fax, mais qui n'est quasiment plus utilisé, qui sera peut-être un jour mis au rebut. Il y a le courrier papier, le courrier électronique. Il y a également le guichet virtuel, sur lequel on trouve de plus en plus de prestations, un outil probablement d'avenir. Et également, comme vous l'avez mentionné, le téléphone. Alors, le téléphone a un avantage, c'est qu'il permet d'avoir un échange direct, peut-être d'interagir, de trouver une solution rapidement. Il a un inconvénient, c'est que la personne qu'on appelle, elle doit être disponible pour y répondre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans quel cas il doit y avoir pour les citoyens un moyen de laisser un message, d'être rappelé ou d'avoir en tout cas une réponse à son interrogation. Pour ce faire, il y a une directive qui date de mai 2019 qui fixe clairement les règles. Donc, par rapport au cas que vous avez expérimenté ou qui vous a été remonté, merci de m'en faire part en parallèle pour que nous puissions mener une investigation, mais mener des actions préventives et correctives pour y remédier. Et peut-être je terminerai simplement en disant qu'il y a encore une possibilité de contacter l'administration au travers du gouvernement. Elle est réservée seulement aux députés, et c'est au travers des questions orales, comme vous l'avez fait aujourd'hui, monsieur le député. Malheureusement, c'est qu'une fois par mois, que pendant 45 minutes. Et de plus, il arrive que les députés ne soient pas satisfaits de la réponse.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Gabriel Warol est satisfait. Pour la cinquième question, je passe la parole à monsieur le député Yves Gigon.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, le week-end passé, la population jurassienne a accepté massivement à 83% l'initiative pour payer les plaques moins chères. Par un score d'une telle ampleur, le peuple a dit qu'il ne veut plus se faire berner encore longtemps et veut payer ses plaques dans la moyenne suisse extrêmement rapidement. Attendu que le sujet a déjà été traité par le Parlement, donc on ne peut pas dire que le processus législatif part de zéro, on pourrait légiférer extrêmement rapidement en la matière, à tout le moins en moins de 2 ans. L'impatience de la population est grande. Ainsi, ma question au gouvernement, dans quel délai le gouvernement compte-t-il nous présenter le projet de loi? Très rapidement, j'espère.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Rosalie Berecis.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Je vous informe en effet, Monsieur le député, que les services de l'État travaillent d'ores et déjà une organisation et une planification de projets dans le but de transmettre un message au Parlement l'année prochaine. Par ailleurs, effectivement, si vous souhaitez aller plus vite, je me permets de vous rappeler qu'un projet élaboré par le gouvernement et la CGF ne demande qu'à être discuté. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député? Monsieur le député Yves Gigon est satisfait. Pour la sixième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Stéphane Babet.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, le canton du Jura s'engage pour la valorisation des produits laitiers, notamment leur valorisation et leur transformation dans le Jura. Inscrit dans cette dynamique, le projet de développement régional PDR de Créalais souhaite également investir dans des lieux de distribution stratégiques pour les produits locaux. Un grand magasin devrait ainsi voir le jour prochainement dans la vallée de Delémont grâce aux investissements cofinancés par le seul canton du Jura, la Confédération et les producteurs locaux. Comme pour le magasin OVA, les produits de la marque spécialité du canton du Jura, mais aussi ceux de la marque du Jura bernois, y seront vendus. Ma question, le gouvernement peut-il nous préciser s'il s'engage à assurer la place des produits jurassiens également dans le Jura bernois, par exemple dans les futurs PDR en gestation? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Herbert.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, monsieur le député, un magnifique projet de développement régional est en cours de développement sous le nom de Créalais, financé à plus de 70% par des privés et le solde à 40-60%. 40% par le canton, 60% par la Confédération. Dans ce projet, une partie est effectivement la mise sur pied d'un magasin pour vendre des produits régionaux. Lorsqu'on parle produits régionaux, ce n'est pas forcément produits de l'Ajoie, produits de Delémont, mais c'est la région dans une définition un tout petit peu plus large. C'est également la diversité du choix qui fait que ce genre de magasin fonctionne. Alors non, le gouvernement ne va pas analyser quelles têtes de moine sont vendues dans ce magasin, si ces dernières sont produites ou non sur territoire jurassien, mais évidemment que dans des développements tels que ceux-là, ici c'est l'association des producteurs de produits régionaux labellisés qui s'occupe de cela, qui contient des membres du Jura bernois et du Jura. Et dans ce cadre-là, d'autres projets sont également en développement et portés par cette association dans le Jura bernois qui verront également des produits jurassiens apparaître dans ces projets respectifs.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député? Monsieur le député Stéphane Babet est partiellement satisfait. Pour la 7e question orale, je passe la parole à Madame la députée Jelica Aubry-Yanketic.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers et chers collègues. Cette semaine, le quotidien jurassien consacre sa série de la semaine à différents articles sur les habitats solidaires. Une de ces rubriques traite des coopératives d'habitation à loyer modéré. Rappelons-le, cette forme d'organisation offre des loyers fondés sur les coûts effectifs. Des atouts importants alors que les charges prennent l'ascenseur et que l'aide fédérale au logement pour les locataires les plus démunis est en train de prendre fin. Dans notre canton, il est mentionné que les coopératives d'habitation ne représentent que 2 ou 3% des logements sur le territoire cantonal, contre 5 à 6% en Suisse romande, voire 20% à Zurich. Le retard jurassien est donc important et m'interroge, d'autant plus que d'après le rapport social publié vendredi dernier, près de 15% des jurassiens sont menacés de pauvreté. D'où ma question, est-ce que le gouvernement entend-il encourager d'une manière ou d'une autre ce type d'habitation afin de rattraper le retard par rapport aux autres cantons? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Jacques Herbert.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, permettez-moi une remarque personnelle. Tout d'abord, c'est que c'est le quotidien jurassien qui fait l'actualité des questions orales et pas l'inverse. C'est toujours sympathique. Ceci étant dit, Madame la députée, il n'y a aucun retard dans la situation jurassienne parce qu'il faut l'analyser dans un contexte beaucoup plus global. Le canton du Jura a le taux de vacances au niveau des logements le plus élevé de Suisse, avec des logements vacants qui ne sont pas des logements indemnisés, à un coût inférieur à certains logements mis à disposition qui sont eux-mêmes indemnisés. Donc nous n'avons pas, dans le canton du Jura, un problème tel que nous pouvons trouver dans des centres urbains comme à Genève, Zurich et autres. Donc dans ce cadre-là, effectivement, les aides du canton de la Confédération ont pris fin et le canton du Jura n'entend pas se substituer à ces dernières, sachant que dans le terrain, le problème n'est pas actuel par rapport justement à ce taux de vacances élevé dans le canton du Jura.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée? Madame la députée Jelica Aubry-Yanketic est satisfaite. Pour la 8e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Philippe Passin.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues. Le QJ, toujours lui, du 30 avril 2022, nous apprend qu'un chemin agricole dans le Doubs à Montmelon a été aménagé sans permis en 2017. Il a été refusé ensuite par la justice et finalement il trouve une issue légale. Le 18/11/2020, cette problématique de chemin avait déjà été évoquée par une question de la députée Pauline Queulot. Toujours selon le QJ, En mai 2021, la commune a réuni le propriétaire et l'environnement et ordonné in fine le rétablissement de l'état conforme. Mais en fait, on ne touche pas au chemin, si ce n'est pour y planter 11 arbres et en fermer l'accès côté Doubs par deux blocs de rochers dans l'idée de ne pas utiliser le chemin. Selon accord, le paysan peut circuler dans le versant du pâturage comme sur toute surface agricole. Le problème est que les arbres ont été plantés à côté du chemin. De plus, notamment en mars 22, le tracé illégal a été utilisé avec un tracteur. Les blocs de rochers ne constituent pas un obstacle majeur, ils sont juste poussés de côté pour le passage du véhicule. C'est la commune qui a la charge des polices des constructions. Toutefois, nous sommes dans la réserve naturelle du Doubs, qui est sous la juridiction
Monsieur
de l'ordre.
Monsieur le député.
Alors que peuvent faire le gouvernement et l'Office de l'environnement pour résoudre la problématique de ce chemin illégal encore utilisé ce printemps? Merci.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Deret.
Voilà, monsieur le député. Effectivement, peut-être tout d'abord souligner que la commune a rendu une décision de police des constructions. C'est à saluer dans un dossier sensible et avec beaucoup d'émotions autour. Effectivement, la décision prévoit une remise en état alternative avec, comme vous l'avez mentionné, arbres et rochers qui devraient empêcher d'utiliser ce chemin de manière à y transiter dessus. Malheureusement, il semble que le propriétaire interprète cette remise en état comme un droit de pouvoir continuer à utiliser le chemin, puisque des observations ont été faites, vous l'avez dit, au printemps. Et le gouvernement va donc inviter la commune à compléter sa décision avec une interdiction claire de circuler, une interdiction d'entretenir le chemin, dans le but qu'au fur et à mesure du temps, le chemin s'estompe et redevienne finalement à l'état sauvage comme nous le souhaitons. Il s'agit donc pour les autorités de revenir à la légalité et non à une application et donc bien évidemment à une application stricte du droit.
Merci monsieur le ministre, quelle est votre appréciation monsieur le député?
Satisfait.
Monsieur le député Philippe Bassin est satisfait. Pour la 9e question, je passe la parole à monsieur le député Vincent Vermeil.
Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs, on a déjà eu l'occasion ici d'aborder la problématique du trafic automobile du côté de Goumois et de toutes les nuisances que cela implique. À certains moments, le trafic est particulièrement intense, 580 passages heure, soit un véhicule tous les 6 secondes. Mais ma question aujourd'hui se situe au niveau du pont de Goumois qui date de 1861 et qui devra être déconstruit et reconstruit en 2024, selon les informations du génie civil à Besançon, et non pas, pour une fois, du quotidien jurassien. Les travaux sont prévus sur plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, nécessitant des mesures exceptionnelles de déviation du trafic. Ma question est la suivante. Comment le gouvernement entend-il anticiper cette échéance? Merci pour votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Deret.
Alors, monsieur le député, effectivement, le pont de Goumois est un ouvrage important pour le transit régional, puisque, grosso modo, 2000 véhicules jour le traversent, et pas seulement des véhicules, mais également 12 000 mètres cubes de bois jurassien qui sont donc exportés dans les scieries du plateau de Mèche, donc également un rôle économique important au niveau de ce pont. Nous avons déjà eu des discussions avec le 25, donc le département du Doubs, d'ailleurs à Goumois France, et il y a trois scénarios qui avaient été évoqués à l'époque par les ingénieurs du département. Le premier est un scénario minimaliste qui permettait simplement de renforcer le pont actuel et de limiter son tonnage à 19 tonnes, scénario que nous avions absolument voulu éliminer puisque cela ne permettait plus de faire transiter finalement les grumes jurassiennes et suisses dans les scieries du plateau de Mèche. Le deuxième scénario prévoyait un renforcement partiel du pont actuel avec une limitation qui serait réintroduite, enfin qui serait maintenue à 40 tonnes et qui nécessiterait, selon les ingénieurs du département, un mois et demi de fermeture. Et le troisième scénario, c'est une déconstruction et reconstruction d'un nouveau pont avec l'utilisation des culées existantes, avec également les travées qui passeraient de 5 à 2, donc de nouvelles travées qui seraient installées au milieu du Doubs. Et là, une fermeture esquissée de 3 à 4 mois, donc une situation plutôt délicate en vertu du transit actuel qui passe sur ce pont. Donc les déviations possibles et officielles seraient le col des Roches, avec 45 km supplémentaires, et l'autre axe Haucourt-Bremoncourt avec 40 km de déviation. Les autres alternatives seraient bien évidemment à réduire au maximum, puisqu'elles emprunteraient des routes communales qui ne sont pas faites pour du trafic ou du grand trafic. Il y a également eu des discussions, je dirais, un peu créatives pour imaginer également la possibilité d'avoir des transports côté français jusqu'à Gaumont-France, des transports publics côté suisse et un éventuel passage sur une passerelle piétonne pour les travailleurs frontaliers. Mais ce n'était que des idées qui étaient émises à la séance. Bien évidemment qu'elles devront être analysées par le porteur du projet, le département du Doubs, qui, pour le détail, devait nous donner des informations sur la suite du projet. Et les dernières informations que nous avons reçues, c'est que le département du Doubs remettait en question les besoins de travaux et voulait faire des analyses supplémentaires sur le pont. Donc une affaire à suivre, de toute façon, très attentivement, dans l'intérêt de la région des Franches-Montagnes notamment.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Vermeil est satisfait. Pour la 10e question, je passe la parole à monsieur le député Romain Cher.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, les beaux jours sont de retour avec son lot de mouillé de chaud de la vitesse. Ma commune, la Baroche, a sur le territoire le fameux tracé de la course des rangiers qui se transforme actuellement en piste de tous les dangers avec des courses folles en moto ou en voiture sportive, nuit et jour, avec ses places de pique-nique improvisées, ses postes d'observation et de chronométrage. La police fait très bien son travail et fait de nombreux contrôles, ce dont je la remercie. Mais lorsque le chat n'est plus là, les souris dansent. Ma question, le gouvernement est-il prêt à mettre des infrastructures lourdes en place pour dissuader ces allumés de sensations fortes et de permettre aux usagers et adeptes de la moto, dont je fais partie, d'apprécier de rouler ce col sans avoir la crainte de se faire shooter par un excité tout debout dans le petit Soustun? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, merci de votre question et des faits que vous révélez, puisque habituellement, donc, les infrastructures lourdes, comme vous l'évoquez, qui doivent être mises en place, ça peut aller de limitation de vitesse particulière, ça peut aller à certains obstacles physiques, comme des portes d'entrée, à sortie des villages, des gendarmes couchés ou d'autres obstacles physiques. En général, ce sont des obstacles qui sont mis en place après, bien évidemment, réflexion, analyse et surtout concertation avec les autorités concernées, les autorités locales. Donc, jusqu'à présent, à ma connaissance, nous n'avons pas reçu de demande particulière de là ou des communes concernées. Bien évidemment que vous me direz que ce n'est pas une raison pour ne rien faire, mais nous avons surtout la police, comme vous l'avez dit, qui fait un excellent travail de prévention et de temps en temps de répression. Au niveau infrastructure, nous avons également une surveillance avec la police du taux d'accidentologie des tronçons. Et à notre connaissance, il n'y a pas d'alarme particulière sur ce tronçon. Donc, par rapport à cela, je prends note de votre question. Je vais en référer aux services concernés et voir si des mesures doivent être prises en place pour remédier aux problèmes dont vous faites part aujourd'hui, monsieur le député.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Romain Cher est partiellement satisfait. Pour la 11e question orale, je passe la parole à monsieur le député Olivier Goffinet.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Depuis sa création, le canton du Jura affirme sa passion pour les jeux théâtraux. En 1994 est née l'unique maturité option théâtre du Jura sous l'impulsion de Germain Meyer. Aujourd'hui, il est possible d'obtenir une maturité gymnasiale avec option spécifique ou complémentaire théâtrale au lycée cantonal de Porrentruy. De nombreux artistes jurassiens devenus célèbres ont transité par cette filière de formation unique de notre pays. Ils participent toutes et tous à l'essor culturel de notre région et trouvent un magnifique lieu d'expression au sein du nouveau théâtre du Jura. Cependant, cette maturité option théâtre semble aujourd'hui remise en question par le CESFG, la Conférence suisse des services de l'enseignement secondaire 2 formation générale, probablement par crainte de voir s'étoffer le catalogue des options spécifiques au niveau fédéral, comme en 2010 déjà. Dès lors, le gouvernement peut-il nous indiquer quelles actions il va mener afin que l'option théâtre puisse être pérennisée au sein du lycée cantonal de Porrentruy ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtet.
Oui, merci, madame la présidente. Donc, il faut rappeler que la Matu Théâtre, c'est un projet pilote depuis 28 ans. C'est-à-dire que ce projet pilote n'a jamais été validé, en fait, au niveau fédéral. Effectivement, par rapport à ce que vous venez d'affirmer, donc, lors de la conférence suisse des chefs de service de la formation post-obligatoire, cette conférence a préavisé la réforme et donc la maturité théâtre. Quand ce sujet est passé en plénum, cette maturité théâtre, sur 26 voix possibles, a reçu une voix, la voix jurassienne. Donc, aucun soutien des services de la formation des autres cantons. Voilà ce que je peux vous dire pour l'aspect administratif. Par rapport à l'aspect politique de ce dossier, donc actuellement, nous allons entrer dans la phase de consultation de la réforme de la maturité. Étant membre du comité de la CDIP, donc CDIP qui regroupe les ministres de la formation des cantons suisses, donc nous avons eu la séance de finalisation du texte qui partira en consultation, c'était de cela il y a 10 jours. Le jury a intervenu pour faire modifier le texte afin que la maturité théâtre soit explicitement mentionnée au même niveau que les autres maturités. Ça a été un débat nourri et à une voix près, le comité de la CDIP a accepté. On considère que c'est une victoire importante, une victoire d'étape. Ceci dit, en parenthèse, parce que ça a été le sujet lors du dernier Parlement également, on peut préciser que mon homologue, la conseillère d'État bernoise, a fait pencher la balance en soutenant la proposition jurassienne. Ceci étant dit, pour la suite, puisque vous l'évoquez, pour donner un maximum de chances pour les étapes suivantes, donc, nous effectuons maintenant un travail de lobbyisme politique canton par canton. Nous avons pour l'instant des accords politiques de principe au niveau des cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais, Fribourg, Genève, Tessin et Berne. Donc nous n'avons pas encore à ce stade la majorité des cantons. L'étape suivante, c'est en cours. Rien n'est gagné pour l'instant, mais on peut, je crois, affirmer que nous avançons dans le bon sens. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Olivier Goffinet est satisfait. Pour la 12e question orale, je passe la parole à monsieur le député Patrick Serf.
Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, chers et chers collègues. Le quotidien jurassien, je vous le donne en mille, rapporte que des motards ont été sanctionnés par la justice en Argeois au motif qu'ils circulaient avec leur machine pétaradante en forêt, cela en toute illégalité. Certains s'adonnaient à cet envahissant hobby sans plaque, d'autres l'avaient falsifié, ni plus ni moins. En cette période où la nature est en effervescence, on observe une recrudescence de ces pratiques dangereuses pour la faune et pour les promeneurs. C'est le cas notamment dans le Valterbie, où les commentaires fusent en regard des obligations auxquelles les vététistes doivent, eux, et à juste titre, se conformer. On ignore le détail des sanctions infligées à ces troubles-fêtes motorisées, mais, renseignements pris, elles sont dérisoires par rapport aux faits reprochés. Quant aux représentants de l'ordre public, on les voit démunis face à ces agissements. Comment le gouvernement envisage-t-il de régler ce qu'il convient d'appeler des zones forestières de non-droit ? Je remercie le ministre de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Merci, madame la présidente. Monsieur le député, on peut déjà observer que le quotidien jurassien est un influenceur important du Parlement. Donc voilà, ça c'est déjà une chose qu'on peut observer. Ensuite, effectivement, le sujet que vous évoquez est un sujet difficile à résoudre puisque finalement, déjà ce n'est pas nouveau que des motards vont en forêt pratiquer illégalement leur passion. Cela fait certainement 50 ans que cela existe. Ensuite, la police, avec l'Office de l'Environnement, font de nombreux efforts pour essayer d'attraper ces délinquants, on peut les appeler ainsi. Parfois, quand ils arrivent à les attraper, bien évidemment que ces personnes sont immédiatement dénoncées au ministère public et sont bien évidemment condamnées selon les peines définies par le droit. Et donc le problème est vraiment de pouvoir déjà sensibiliser les gens à ce qu'ils aillent dans des endroits appropriés pour leur passion. Il y en a notamment un à Roggenbourg et ailleurs dans la région. Et donc l'autre aspect, c'est vraiment de pouvoir faire un travail efficace, puisque vous pouvez imaginer que si un motard est aperçu dans une forêt, que la police est avisée, le temps qu'elle arrive, le motard est déjà sur la montagne suivante. De plus, nous savons qu'il y a passablement de pratiquants du Jura bernois qui passent la frontière Jura bernois Jura et qui finalement rendent un peu plus difficile la poursuite ou la capture de ces délinquants. En tous les cas, je ne peux que féliciter la police et l'Office de l'environnement pour tous les efforts qu'ils font et inciter les motards à vraiment respecter la loi et à pratiquer leur passion dans les endroits qui sont autorisés.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Je suis partiellement...
Monsieur le député Patrick Cerf est partiellement satisfait. Pour la 13e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Alain Collère.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, les panneaux photovoltaïques ont le vent en poupe, solution la plus rapide pour la transition énergétique, et beaucoup de propriétaires s'intéressent à poser ces panneaux. Ce sont des personnes motivées et qui ont la fibre d'être plus écologiques. Mais où le bât blesse, c'est que même encore aujourd'hui, certains sont freinés par la non-autorisation de construction du canton à leur demande de permis en zone vieux village. Ma question, est-ce que le gouvernement envisage un moyen plus rapide et moins contraignant pour accorder les permis de construire pour la pose de panneaux photovoltaïques en zone vieux village? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, effectivement, l'énergie photovoltaïque est une énergie importante, disponible notamment aujourd'hui. Là, on est à l'ombre à l'intérieur du bâtiment, mais le soleil brille à l'extérieur. Et nous avons effectivement, au niveau de l'État et même de la Confédération, une volonté de développer encore plus la production d'énergie photovoltaïque. Il y a par contre certains obstacles, notamment la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui donne certaines restrictions fédérales. Donc par rapport à cela, effectivement, nous essayons d'agir au mieux au niveau des compétences cantonales. Et vous avez peut-être observé qu'une loi est en consultation qui prévoit notamment de ne plus avoir besoin de permis dans certaines configurations, une simple annonce. Donc actuellement, en toiture, une annonce suffit dans certaines zones à bâtir. Et là, nous proposons d'étendre cette obligation d'annonce et non plus de permis pour les panneaux solaires posés en façade. Donc voilà quelques aménagements qui sont déjà prévus pour faciliter le développement de cette source d'énergie. Et je vous invite, avec votre parti, à répondre à cette consultation de manière positive sur cet aspect-là, en tous les cas. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Alain Collère est satisfait. Pour la 14e question orale, je passe la parole à monsieur le député Gauthier Corbin.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers et chers collègues. À ma connaissance, le quotidien jurassien n'est pas encore au courant. Mais la cantine scolaire du lycée cantonal à Porrentruy n'a bientôt plus de gérant. Des questions de rentabilité notamment ont été soulevées pour expliquer ce départ. Ainsi, le défi reste entier afin de réaliser la motion acceptée par le Parlement en faveur de davantage de produits locaux et de qualité dans les assiettes de nos élèves. Dans quelle mesure le gouvernement va-t-il tenir compte de cet important paramètre dans la future offre d'emploi ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, madame la présidente. Concernant les raisons invoquées par le gérant auprès du directeur du lycée, il y en a deux. Il y a les pré-Covid à rembourser et la diminution de la fréquentation du restaurant. Au sujet des produits locaux que vous évoquez, effectivement, je peux vous confirmer que dans l'appel d'offres sera stipulé, je cite, une politique d'achat dans un réseau de proximité avec un maximum de produits frais et locaux. Également, un autre paramètre qui paraissait important à nos yeux et à ceux de la direction du lycée cantonal, c'est une ouverture du soumissionnaire à participer à des projets pédagogiques liés à la nutrition et à la santé. Je précise encore que l'appel d'offres est transitoire d'une durée de 1 an afin justement de nous laisser le temps d'étudier des synergies possibles avec les autres restaurants, des divisions, par exemple, artisanales, commerciales, santé sociale, du CGF. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Gauthier Corbat est satisfait. Pour la 15e et dernière question orale, je passe la parole à monsieur le député Alain Collère.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers et chers collègues, le 15 mars dernier, la maladie de Newcastle, maladie hautement contagieuse des volailles, touchait une exploitation jurassienne. Le canton, en collaboration avec l'OSAV, ont délimité très rapidement des zones de protection qui ont porté leurs fruits, car aucune propagation de la maladie a été détectée aux alentours de cette exploitation. Les exploitations d'aujourd'hui produisent des œufs sous différents labels qui obligent un élevage en plein air. Donc, plus de risques de contracter cette maladie due aux oiseaux sauvages ou migrateurs. Ma question, est-ce que le gouvernement envisage de prendre d'autres mesures dans le futur pour que cette maladie ne revienne pas sur le territoire cantonal ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Herbert.
Évidemment, monsieur le député, toutes les mesures qui seront possibles seront prises.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Alain Collère est partiellement satisfait. Toutes les questions ont pu être posées.
Voilà, c'est la fin de cette séance des questions orales du côté du Parlement jurassien. Merci de nous avoir suivis en direct de l'hôtel du Parlement à Delémont. Vous retrouverez bien sûr toute l'actualité du Parlement jurassien tout au long de la journée sur rfj.ch. Très bonne journée.